Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous étudions l'Apocalypse, le livre final de la parole de Dieu, un livre rempli de gloire, un livre qui nous montre le royaume de Dieu et sa finalité, sa restauration totale et son instauration sur la propriété de Dieu. Et avant que ça se produise, eh bien, Dieu nous en donne tous les événements prophétiques. Et ça, c'est formidable. Parce que nous sommes son peuple. Et bien, donc Dieu nous dit ce qu'il va faire. Comment il va faire ? Et pourquoi nous sommes dans de tels temps comme l'Église, la dispensation de l'Église. Tout cela, vous devez en avoir l'intelligence. Si vous avez l'intelligence du royaume, vous irez loin dans votre vie. Vous accomplirez votre destinée. Vous serez passionné pour Dieu. Vous ferez ce qu'il vous demandera de faire. Et la seule chose que vous réaliserez, c'est que si Dieu vous appelle à faire de grandes choses et que vous n'en voyez qu'une partie, vous réaliserez que c'est vous qui limitez Dieu dans votre vie. Mais la fin des temps doit nous inspirer pour aller prêcher, pour ne pas perdre une journée de notre vie sans parler du Seigneur, sans passer du temps avec lui, sans essayer de mieux comprendre son royaume. Nous avions vu les premiers chapitres et je vous rappelle que d'abord Jean fait des salutations au chapitre 1. Ensuite, il voit une vision de Christ glorifié. Ensuite, Jésus lui donne ce message aux sept églises. Chapitre 2 et chapitre 3. Et nous avons vu que dans chaque message que Jésus adresse à chaque église, il y a des enseignements pour nous. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous sont personnelles en tant qu'Église, puisque nous devons apprendre, tirer des enseignements de la parole de Dieu. Puis, au chapitre 4, nous ne voyons plus l'Église. D'un seul coup, elle n'est plus sur la terre, ça, c'est clair. Vous ne verrez plus l'Église sur la terre. Vous ne verrez plus les ministères. Pourquoi ? Parce que l'Église est enlevée. Et au chapitre 4, nous avons la plus belle révélation de l'Écriture sur le troisième ciel. Et nous avons étudié tout cela en détail en mettant en parallèle toutes les visions de l'Ancien Testament. Nous avons vu qu'au troisième ciel, il y a le trône de Dieu, il y a les chérubins, il y a les 24 anciens, il y a tout un tas de choses et de symbolisme aussi autour du trône de Dieu. Il y a la Jérusalem céleste. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a vraiment, dans le chapitre 4, cette vision céleste qui est absolument extraordinaire. Et Dieu nous donne le privilège de savoir où nous allons quand nous allons quitter notre corps. Dans sa présence, c'est important de renforcer vos convictions relation avec la parole. Comme ça, quand quelqu'un vous demande compte de votre espérance, comme le dit Pierre, vous êtes capable de dire non, la Bible dit ça, ça et ça. Ah bon, toi tu connais ces choses? Oui. Ah, tu es pasteur? Non.
Ah, tu es pasteur.
Je suis un simple chrétien.
Mais
Jésus a écrit sa parole.
Pour moi.
Et voilà ce qu'il dit. Et je sais, mon espérance est vivante. Et je sais où je vais. Et je sais ce qu'il y a. Comme ça, j'aurai pas vraiment un choc culturel quand je vais aller au ciel. Il y a tellement de chrétiens qui n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans le ciel. C'est phénoménal. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont sauvés, vous leur demandez le ciel, c'est quoi? C'est là où il y a Dieu. Et en dehors de ça, il y a quelque chose, je crois qu'il y a une ville, mais je ne sais pas très bien. Les gens ne savent pas grand-chose.
Enfin,
il y a beaucoup de descriptions dans l'Écriture. Ensuite, nous avons vu qu'au chapitre 5, il va y avoir une grande question. Il y a quelque chose qui se passe. Un événement que nous verrons, qui a été prophétisé à l'avance. Dans le ciel, on va présenter un livre scellé de 7 sceaux dans lequel il y a le déroulement des événements prophétiques de la récupération de la gestion de la propriété de Dieu, c'est-à-dire la terre. Et c'est justement là où est l'issue, l'aboutissement de cette période qui va être la tribulation. Et personne n'est capable de déclencher ces événements si ce n'est l'agneau, le lion de la tribu de Juda. Nous avons vu tout cela. Et nous avons vu qu'à partir du moment où le Père remet au Fils, remet à l'agneau, ce livre scellé de 7 sceaux, eh bien, la tribulation va commencer. Mais nous nous sommes posé certaines questions, parce que parler de la tribulation, c'est bien gentil. Mais il a fallu clairement que nous puissions comprendre 3 choses importantes. Des événements et aussi une période prophétique. C'est pour ça que nous avons étudié l'enlèvement de l'Église. Parce que vous savez, il y a certains d'entre vous qui avaient lu un peu à propos de la tribulation. Il y a tout un tas de doctrines où un certain nombre de gens, de commentateurs nous disent, voilà, la tribulation, oui, nous serons dedans. Attention, on aura du mal à s'en échapper. On va connaître la bête, le faux prophète. Et faites attention parce que 666, ça peut vous courir derrière. Toutes sortes de trucs où on a mis la trouille aux gens.
Et
ce sont souvent des gens qui ne comprennent pas les grandes lignes prophétiques.
Non,
la tribulation est quelque chose qui est ordonné par Dieu. Nous avons vu qu'il y a les 70 semaines d'année de Daniel. Et nous avons vu qu'il y a une semaine d'année. C'est la troisième chose que nous avons étudiée. Je vous rappelle, nous avons étudié d'abord l'enlèvement de l'Église. Dieu va enlever son ambassadeur avant de déclarer la guerre. Pendant ce temps-là, nous recevrons nos récompenses, tribunal de Christ. Nous avons étudié cela. Mais il a fallu qu'on comprenne aussi les fameuses 70 semaines d'année de
Daniel.
Et nous avons étudié Daniel 9, qui nous a appris pas mal de choses. Et nous avons vu que l'issue, c'est la destruction des systèmes de ce monde. Le mauvais gestionnaire, le diable, a reçu d'Adam et Ève la gestion de la propriété de Dieu. Cela fait 6000 ans. Mais il y a un moment où Dieu dira, ça suffit maintenant. Vous avez vu le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Maintenant, vous allez voir la colère de Dieu. Donc Dieu enlève sa bien-aimée parce qu'il ne va pas frapper sa bien-aimée. Donc nous avons étudié ces trois choses. L'enlèvement de l'Église. On a expliqué la première phase de la première résurrection. Ceux qui sont encore vivants dans leur corps actuel, ils seront transformés en un clin d'œil. Puis, Jésus, on est réunis dans le ciel avec le Seigneur. Premier retour de Christ. Et retour au troisième ciel. Tribunal de Christ. Et à partir de l'enlèvement, c'est le début à nouveau de quoi ? De la remise en marche de l'horloge prophétique pour Israël.
Ça
s'était arrêté, je vous rappelle, l'horloge prophétique au moment même où le Messie est retranché. Entre temps, il y a eu la dispensation du mystère, c'est-à-dire de l'Église. Bon, donc je pense que maintenant c'est clair pour vous tous. Alors, nous avions commencé à étudier le début du chapitre 6. Et je vous ai montré qu'il va y avoir donc sept sceaux qui sont des jugements de Dieu. Et je vous rappelle qu'il y a eu des périodes où Dieu a jugé la terre. Il faut vraiment dissocier les deux, entre la mauvaise gestion du diable.
Et
les jugements de Dieu direct sur la terre. La dernière fois, je vous ai clairement montré que jusqu'au temps de la grâce de Dieu, Dieu pouvait intervenir et voulait, et parfois le faisait, intervenait directement sur la terre vis-à-vis de certaines nations. Et on a vu certains jugements que Dieu a envoyés. Sodome et Gomorre, c'était un jugement. C'était une action divine pour juger des hommes, le péché. C'était localisé. Dieu s'est opposé à la plus puissante nation du monde de l'époque de Moïse, c'est-à-dire l'Égypte. Les dix plaies, nous avons vu, ce ne sont pas des démons qui sont venus frapper les Égyptiens, mais des anges de Dieu qui exercent des jugements. Nous avons vu aussi qu'un jour, Dieu n'a pas seulement localisé, mais une fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu a jugé toute la terre. Le déluge, vous vous rappelez de ça. Et Dieu a dit, je ne jugerai plus la terre avec de l'eau. Non, Dieu rejugera toute la terre. Avec le feu d'ailleurs, on verra. Donc Dieu va respecter sa parole qu'il a donnée à Noé quand il est sorti de l'arche. Dans l'histoire d'Israël, on voit Dieu défendre son peuple d'une façon surnaturelle. Dieu intervient directement. Il fait peur à des armées. Il met les armées contre Israël à se battre les uns contre les autres. Plusieurs fois, il y a eu des interventions surnaturelles de Dieu pour écarter l'inimitié envers son peuple. Maintenant, dans le temps de la grâce, nous n'avons pas d'alliance nationale, nous avons une alliance individuelle. Nulle part dans le Nouveau Testament, je vous rappelle, pendant le temps de la grâce, Dieu envoie un seul jugement sur la terre. Faisons bien attention à cela. Pourquoi ? Parce que c'est le temps de la grâce. C'est la dispensation du mystère de la grâce. Donc je vous ai clairement expliqué ça la dernière fois. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens disent Dieu envoie la guerre, Dieu envoie les tremblements de terre, Dieu envoie les tsunamis. Non. Depuis que Jésus est ressuscité, Dieu a fait une nouvelle alliance avec tous les hommes qui voudraient l'accepter. Et Israël n'est plus défendu depuis cette période-là. Je sais que certains, vous croyez cette doctrine, mais je suis désolé de le dire. Dieu ne défend plus Israël. Je vous ai montré qu'en 70 après Jésus, Jérusalem a été détruite par un empereur romain. Pourquoi ? Les Israélites pensaient que Dieu allait les délivrer. Non. Jérusalem a été détruite. La nation d'Israël, de l'an 70 jusqu'à 1948, n'a plus existé. Dieu n'est jamais intervenu pour Israël. Pendant le temps de la grâce, il va préparer le terrain. C'est ce qu'il a commencé à faire. Là, depuis 1948, il y a quelque chose qui s'est passé. Pour que son peuple revienne sur son territoire. Le pays de Canaan, le temple sera reconstruit. Je vous garantis, le jour où vous voyez que le temple est reconstruit, il y aura tous les éléments physiques et géographiques qui permettront à ce que la tribulation puisse se mettre en place. Alors, nous étions en train de regarder Matthieu 24, parce que Matthieu 24, ça nous éclaire énormément. Il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui nous permettent d'être extrêmement éclairés par rapport à cette période de tribulation. Parce qu'au chapitre 6, les sceaux de Dieu, les jugements de Dieu descendent et Dieu frappe les hommes. Et la tribulation, cette période de 7 ans, qui sera coupée en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi, on donnera quelques caractéristiques petit à petit de la tribulation. Parce que j'essaie que l'enseignement soit simple, que ce soit abordable pour tous au maximum.
Donc
je vous nourris cuillère après cuillère. De telle façon de vous aider à ce que ce soit très simple. Pour éviter d'avoir tout un tas de confusion et de passer sur des choses importantes. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, les prophéties de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9 et Daniel 12, c'est vraiment des textes qui nous aident pour mieux comprendre. L'image globale de ce qui va se passer. Matthieu 24 est un texte super important et qui va nous aider, ces deux textes, les textes de Daniel et les textes de Matthieu 24, quand on les met en parallèle, ça nous permet de bien comprendre. Donc je vous rappelle que les disciples vont poser une question à Jésus alors qu'ils voient le temple au début de Matthieu
24.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a trois questions. Parce que Jésus leur dit, mais vous voyez ces pierres là, ce temple va être détruit. Et au verset 3 de Matthieu 24, les disciples vont poser trois questions. Quand est-ce que ça va arriver, c'est-à-dire la destruction du temple ? Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour ? Et de la fin du monde ? Et Jésus va répondre à ces trois questions. C'est pour ça qu'il faut qu'on les analyse bien. Or, la première, nous y avons répondu. Et en fait, c'est quand est-ce que le temple va être détruit ? Et Jésus prophétise ce qui va se passer en l'an 70. Parce que si vous étudiez bien la parole de Dieu, vous verrez qu'à la fin de la tribulation, donc des 7 ans de tribulation, alors qu'Israël sera vraiment au bord de la destruction totale, à 100%, ils seront au bord. Jésus va revenir une deuxième fois. Et rappelez-vous, pour les Juifs, pour les disciples, là, quand ils posent cette question,
Ils
n'ont pas la révélation du temps de l'église. Ça, je tiens à insister encore là-dessus. Les disciples, eux, se disent, oulala, là, on est dans des temps vraiment particuliers. On sait ce que Daniel a dit. Ils n'ont que les prophéties de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas d'idée sur quand est-ce, sur la dispensation de l'Église. Rappelez-vous, c'est la dispensation du mystère. Ils ne savent pas encore. Ils pensent que Jésus va venir régner là directement. Dans les quelques mois, quelques jours. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, qu'il est mort, les disciples, ils ont fait le profil bas. Ils étaient très déprimés. Quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont fait waouh. Et quand Jésus a commencé à leur parler du royaume, là ils
se
sont dit nous sommes les ministres. Vivement qu'ils prennent le pouvoir. Rappelez-vous, ils savaient que le Messie est le roi. Jésus, quand il est né, qui est né? C'est le roi qui est né, le roi d'Israël. Tout le monde le savait. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question.
Ils
voient bien que là, Jésus n'est pas encore mort et ressuscité, mais là, ils savent qu'il y a des choses qui commencent à presser. Là. Donc, en fait, ils disent au Seigneur, toi, Seigneur, qui connais toutes choses, raconte-nous la suite. Tu dis que le temple va être détruit. Mais nous, on sait que le Messie va régner à Jérusalem. Alors là, on ne comprend pas très bien, Seigneur. Là, Jésus va leur expliquer certaines choses,
mais
sans la lumière du temps de l'Église.
Jésus
n'était pas encore mort ni ressuscité. Ce que Dieu avait prévu de ce temps prophétique, de cette dispensation de l'Église, les disciples l'ignoraient, Jésus ne pouvait pas leur dire. Rappelez-vous, le mystère qui nous a été révélé au travers de l'apôtre
Paul
a été caché. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour nous racheter.
Si,
à cette époque de Matthieu 24, Jésus commençait à tout expliquer, vous savez, le monde spirituel a des oreilles. Satan aurait tout fait pour faire échouer le plan de Jésus.
Enfin,
le plan du Père, précisément, que Jésus devait exécuter. Si vous voulez vaincre un ennemi, vous n'allez pas tout lui raconter, vous n'allez pas lui dire, tu sais, voilà ce que je vais faire pour te vaincre. Non. La Bible nous dit d'ailleurs que si les puissances, c'est-à-dire les puissances sataniques, avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Satan aurait préféré avoir Jésus qui le dérange sur cette terre, même de chasser les démons, même de guérir les malades, même de faire des miracles de provision, mais des gens qui étaient toujours sa propriété, la propriété de Satan, qui étaient toujours pécheurs, qui ne pouvaient pas naître de nouveau, qui ne pouvaient pas entrer dans le royaume. Il aurait préféré ça s'il l'avait su. Plutôt que de laisser Jésus le vaincre et permettre à ce que toute personne qui allait se repentir puisse entrer dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous, la nouvelle naissance, c'est ce qui nous permet d'entrer, ce miracle qui nous permet d'entrer, de naître dans le royaume de Dieu. Donc Jésus leur dit bien, ok, quand est-ce que ça va arriver? Eh bien, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va venir détruire Jérusalem. Nous avons vu cette première réponse. Maintenant, la deuxième réponse, par rapport à la deuxième question, c'est quoi? Quel sera le signe de ton avènement? Là, on parle du deuxième retour. Ils ne connaissent rien du premier retour. À chaque fois qu'on parle de l'avènement dans ces périodes-là. L'enlèvement de l'Église, ils ne connaissent pas. L'enlèvement de l'Église est une doctrine du Nouveau Testament pour nous les chrétiens, frères et
sœurs.
Ce n'est pas une doctrine pour... qui était révélée dans l'Ancien Testament. Il y avait des images de l'enlèvement, par exemple, Enoch, qui a été enlevé. Élie aussi. Ça, c'était des images, des préfigurations, c'est-à-dire quelque chose qui sont des symboles, des types, ce qu'on appelle. Mais en aucun cas, vous avez la doctrine de l'enlèvement de l'Église dans l'Ancien Testament.
Il n'y
avait aucune révélation. C'est pour ça que Paul nous parle dans 1 Thessaloniciens 4, je vous rappelle que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, etc., etc. On a étudié tout ça. Alors, Jésus va leur dire un certain nombre de choses à propos du quand est-ce qu'il va revenir. C'est-à-dire, à quel moment, quel est le moment où il va, quels sont les signes de sa venue. Alors là, il va nous parler dans Matthieu 24, à partir du verset 27, Jésus va répondre à la question numéro 2. Et il va dire, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement, c'est-à-dire le retour du Fils de l'homme. Mais rappelez-vous, retour pour qui ? Le deuxième retour, c'est pour les Juifs. Alors, on
ne
va pas tout lire en kirundi, on va lire en français. Verset 28. Et quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. On parlera de ça plus tard. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. On expliquera aussi ça, ce n'est pas littéral, bien évidemment. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez, que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. C'est à la porte. Ces choses, c'est tout ce qu'il va dire à propos de la tribulation, comme nous allons voir. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, regardez bien, du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Rappelez-vous, on ne parle que du deuxième retour, on ne parle pas de l'enlèvement ici. Ils n'ont aucune connaissance de la doctrine de l'enlèvement ici. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils seront tous emportés. Oui, ça sera la fin. Et ça va être la fin du monde. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors quand on lit ça, on se dit, mais ça c'est l'enlèvement, un pris enlevé et l'autre laissé. Non, ça n'a rien à voir. En fait, ici, on ne parle pas de l'enlèvement. Et l'un sera pris et l'autre laissé. Celui qui est laissé, c'est celui qui est né de nouveau pendant la tribulation et qui va entrer dans le millénium. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement ici. L'enlèvement, ils ne connaissent pas encore. Souvent, malheureusement, un texte comme ça, on s'est dit, ah oui, l'un sera pris, ça veut dire qu'il sera enlevé, et l'autre sera laissé, il restera, et il sera dans la tribulation. Non, on ne parle pas ici de l'enlèvement. On parle de la fin de la tribulation, là où Jésus va revenir. Celui qui va être laissé ici, c'est celui qui sera né de nouveau, et qui sera encore vivant dans son corps, et qui va entrer comme ça dans son corps, non ressuscité encore, parce qu'il ne sera pas mort physiquement, dans le millénium. C'est ça que ça veut dire ici. Peut-être que tu donnes quelques explications.
Akenshi yo tuvyumvise gutya twumvumenga ni gihe cy'ukuduzwa kwishengero aho umwe azojanwa mu ijuru uwundi nawe gasigara ariko siko bimeze uzojanwa n'uzoba atizeye no kuvuga ni gihe cihamwa ni gihe kigoye ni gihe cy'ukumeregwa nabi ko abantu batizeye ariko uzosigara n'umuntu azoba yizeye.
Donc, il faut bien comprendre cela, parce que souvent les gens interprètent mal ces textes, et c'est une confusion dans Matthieu 24. Parce que les gens pensent que Jésus parle de l'enlèvement ici.
Ah,
Jésus ne parle pas d'enlèvement. L'enlèvement se passera au début de la tribulation. Et là, c'est les gens qui vont rester jusqu'au bout de la tribulation. Nous verrons qu'il y a des gens qui vont être encore vivants à la fin de la tribulation et qui seront nés de nouveau. Lorsque Jésus va revenir pour Israël, avec vous et moi, au bout des 7 ans de tribulation, eh bien nous verrons qu'il y a des gens qui vont être pris et d'autres laissés. Ceux qui vont être pris, c'est ceux qui vont être amenés en enfer. Et que Dieu va faire mourir. Parce qu'à la fin de la tribulation, nous verrons que Dieu va faire mourir tous les pécheurs. Mais ceux qui seront nés de nouveau, qui iront jusqu'au bout de la tribulation, c'est-à-dire qui auront reçu le Seigneur pendant la tribulation, et qui ne seront pas morts des persécutions immenses qu'il y aura, que nous verrons, eux y resteront. C'est ce que ce texte veut dire ici. Verset 41. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. La même chose. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Là, c'est l'ennemi dont on parle ici. Et le voleur, entre guillemets, c'est le Seigneur qui va revenir et qui va finir de mettre de l'ordre ici. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir. » S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Verset 51 pour clôturer, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des hypocrites. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous étudierons cette partie-là. Donc Jésus explique qu'à la fin de la tribulation, il va revenir. Que ça va être soudain et qu'il va y avoir un certain nombre de choses. Il va y avoir du tri à la fin de la tribulation. Nous reviendrons sur ce texte un peu plus tard. Alors, la question numéro 3, on va trouver un certain nombre de gens, de choses. On va lire un peu plus tôt que la réponse de la question numéro 3. La question numéro 3 est répondue à partir du verset 9. Mais on va lire un peu plus. Je dirais, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer qu'il va y avoir un certain nombre de choses pendant la tribulation que Jésus va décrire. Donc, on va lire du verset 4. Et on ira bien sûr jusqu'au verset 25 inclus. Alors Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc là, il y a un aspect de séduction. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Tiens donc, on va voir justement que pendant la tribulation, ça va commencer comme ça. Les guerres, des bruits de guerre, les nations vont se monter les unes contre les autres. Séduction, guerre, bruits de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore à la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela, regardez bien, ne sera que quoi ? Le commencement.
Ngo kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho kenshi ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramo ni itanguriro
y'ibibazo. Il y a un commencement des douleurs.
Urumva ngo imibabaro iratangura.
Oui, c'est quand Dieu va commencer à envoyer les premiers sauts.
N'igihe Imana izotangura guhungika bya bihano byayo bya mbere.
Vous vous rappelez, on a parlé qu'il y a 6 sauts de jugement de Dieu.
Mwibuke ko twavuze ko hariho ibimenyetso cyanke udushasharandwi ibihano bitangatu.
Et quand il va y avoir le 7e?
Maze icindwi nicaza
le 7e après.
Icha icindwi kije inyuma.
Va diviser encore, il va y avoir 7 jugements.
Kizoba kirimo utundi indwi
tunyegeje. En finalité, on va parler des 7 coupes de la colère de Dieu.
Munyuma rero bace bongera bavuge ngo ibikombe ndwi by'uburake
by'Imana. Donc il va falloir que vous compreniez que dans la tribulation,
Luvano kumenya ko mu gihe cy'ihamwa,
il va y avoir des actions de jugement de Dieu direct.
Hazoba hariho ibikogwa Imana ikwirahana ubwayo.
Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez, parce qu'on va, on va commencer à aller profondément dans certains textes. Mais je
ne
veux pas que vous perdiez l'image globale. Les choses vont commencer. Ça va aller très mal sur la terre. Et après, il va y avoir une intensification des jugements de Dieu et le diable qui va réagir. Et c'est là où on va voir que cette tribulation va être coupée en deux parties. Et dans la deuxième partie, le diable va énormément réagir. C'est Jésus qui va en parler là, mais on parle du commencement des douleurs. On essaie de voir l'image globale, puis après on reviendra sur certaines caractéristiques.
Donc
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc là on parle de persécution, mais une persécution qui au départ commence par certains endroits, et après ça devient global, les nations. Ça veut dire que la globalité de la terre va se monter contre qui ? Contre Dieu, et particulièrement contre ceux qui deviendront chrétiens pendant la tribulation.
Ngoniho bazobatanga ngo muzigirizwe bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje niho benshi bizobatsitaza icyo gihe rero abo bavuga bazotangwa bazokwicwa n'abazoba bizeye izina ry'umwami mu gihe
cyane. On va voir ça dans les, justement dans les chapitres de l'Apocalypse.
Ibi tuzobibona mu byanditswe byo mu gitabo cy'Ijuru Yohana.
Oui, alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront et se haïront les uns les autres.
Ngo niho benshi bizobatsitaza bazogyarukana.
Donc beaucoup de choses vont se produire. Rappelez-vous que la tribulation commence avec qui ? Seulement des incroyants. Mais avec un tel événement qu'il y a des gens qui vont réagir. Je vous rappelle qu'il y a deux groupes qui vont se former au début de la tribulation. Ceux qui vont réagir en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné nos vies à Jésus ? Et ils vont donner leur vie à Jésus au début de la tribulation. Et les autres qui vont dire, ces chrétiens et cette histoire de Dieu, on va tout faire pour éradiquer ça sur la terre. Et là, il va y avoir ces deux camps. Et de plus en plus, les confrontations de puissance de la part de Dieu qui envoie des jugements et le diable qui essaye d'emmener le plus possible de personnes.
Donc,
par la séduction, par la persécution, et après, comme nous allons le voir, par la montée d'une nation qui sortira de 10 nations, qui va faire des alliances, entre autres avec Israël aussi, qui va trahir Israël, l'Antichrist qui va monter avec une puissance satanique qu'on n'aura jamais vue sur la terre, et qui va créer un gouvernement mondial que Dieu a toujours voulu casser sur la terre, je vous le rappelle, particulièrement à la tour de Babel. Mais là, ce que Satan voulait faire à la tour de Babel, il va pouvoir le faire dans une période très courte. Au travers de l'Antichrist. Et c'est là où il va, l'Antichrist va travailler avec un prophète, un faux prophète, un homme qui va être revêtu des pires esprits sataniques qu'aucun homme n'aura jamais eu sur la terre. Mais entre temps, Dieu va susciter deux témoins qui, eux, seront remplis de la puissance de Dieu et qui aideront à protéger le peuple de Dieu. Beaucoup de gens qui se convertiront pendant cette période-là vont mourir pour leur foi. Mais pas tous. Loin de là. Donc, ça va se décrire, ça va. Vous allez voir, le scénario de la tribulation va se découvrir. Alors, aussi, plusieurs succomberont et se trahiront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes. Ah, là, vous voyez, on a parlé d'abord de certains qui vont se dire « Je suis le Christ », etc., etc., au début du texte. Et là, de plus en plus, on commence à parler de faux prophètes qui vont, qui s'élèveront et séduiront, quoi ? Beaucoup de gens.
Ngo kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi.
Donc on va voir des montées du mal, du péché, de la puissance du péché, du mal, du satanisme sur la terre. Quelqu'un qui va réussir à former un gouvernement mondial parce que la terre sera dans de telles tribulations. Qu'il va apporter des solutions surnaturelles sataniques. Nous verrons comment l'Antichrist va pouvoir monter comme ça et que tout le monde va l'admirer. Et après, il va aller à Jérusalem et les gens vont l'adorer. Et ils vont faire des alliances spirituelles. Il va les forcer à faire ces alliances spirituelles. Et tous ceux qui n'accepteront pas de faire cette alliance spirituelle satanique avec lui, il va tout faire pour les éradiquer de la terre.
Et
ce seront justement les enfants de Dieu, ceux qui vont se donner à Christ. Mais comme ils ne l'ont pas fait dans le temps de la grâce où nous sommes, toi, tu n'as pas payé de ta vie pour donner ta vie à Jésus. Tu as été gracié. Et tu n'es pas persécuté à mourir. Il y a eu des tribulations, il y a eu des persécutions dans ce monde. Il y en a eu, il y en aura encore. Mais il y a toujours une terre sur cette terre. Il y a toujours un pays où on peut se réfugier quelque part quand il y a de grandes persécutions contre les chrétiens. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'Église. Même s'il y a eu des moments très difficiles, on ne peut pas dire que sur toute la terre, les chrétiens ont été persécutés au même moment. Et heureusement d'ailleurs, Dieu a toujours voulu éviter cela. Donc là, on a une montée et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors on va parler de ça un peu plus tard. En fait, le péché va connaître un degré sur cette terre qu'on n'aura jamais atteint. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quasiment rien par rapport à ce qui va se passer dans cette période-là.
Maze kuko ubugararije buzogwira urukundo rwa benshi ruzotemba ico gerero ngo ubugararije icaha bizokomera cyane ku isi ku rugezo atanumwe yari bwigera abona.
Le mystère de l'iniquité, ça nous est dit dans Thessaloniciens.
Ngwibanga gikibi ibanga ry'ubugararije.
Ou justement l'homme impie, celui qui est rempli du mal.
Ngo umunyaki
l'antichrist.
Umwe yuzuye kibi ari wa antichristo.
Va monter justement.
Azoduzwa akomere.
Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On verra à quel prix les gens pourront être sauvés et passer au travers de la tribulation. Certains passeront, sortiront vivants de la tribulation. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. Alors, c'est pourquoi que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Là, on a un texte ici. Dans ce verset nous permet, vous allez voir, de faire la connexion. Regardez bien, il dit l'abomination de la désolation dont a parlé qui ? Le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Là, Jésus lui-même, de sa propre bouche, établit une connexion claire avec cette période-là et les prophéties de Daniel.
Ngo nuko aho muzobonera cha kizira cy'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cyavuzwe nande na Daniyeli yavugishwa n'Imana usoma ni yeyubare Yesu rero ubwiwe arafatanije ibizo bico gihe n'ivyo Daniyeli yavugishijwe n'Imana.
Particulièrement dans vos bibles vous avez le parallèle de Daniel 9 27 qu'on va lire et Daniel 12 11. Donc Daniel 9 27 et 12 11 s'il vous plaît.
Ashobora gusoma Daniyeli 9 26 na Daniyeli 12 11.
Parce que Daniel parle d'une période pour Israël. Daniel reçoit des prophéties pour Israël, rappelez-vous.
Kuko Daniel yaravuze ibihe kuri Israël, kuko yaronse ubuvugishwa kuri Israël.
D'une période horrible.
Gwigihe kigoye cyane.
Terrible comme la terre n'aura jamais connu.
Ngo giteye ubwoba isi tigeze kumenya.
Donc voyez Matthieu 24 de la bouche de Jésus.
Uruva Matthieu 24 Yesu wenye nubwiwe.
Ça nous relie avec les prophéties de Daniel.
Adusubije mu byo Daniel yavuze.
Effectivement.
Kandi biraboneka.
Daniel 2 la statue.
Daniel igice cy'akabiri yavuze igishushanyo.
Daniel 7 la bête avec 10 cornes.
Hanyuma yongera aravuga muri Daniel w'indwi icyagikoko gisa amahembe.
On étudiera quand on va étudier le fameux personnage de l'Antichrist.
Aho twize tuzokongera tukiga turiko turiga kuri Antichrist.
Daniel 9 qui nous explique les 70 semaines d'années.
Daniel 9 atubwira yamayinga y'imyaka 70.
Et Daniel 12 qui nous donne aussi des moments difficiles pour Israël avec le retour en gloire du Seigneur et le règne du peuple de Dieu.
Na Daniel 12 atubwira umwami agarutse n'ubwoko bw'Imana bugatangura.
Tous ces textes, nous allons y revenir au fur et à mesure. Là, ce que j'essaie, c'est de vous aider à avoir un peu plus clair dans cette période de 7 ans.
Ibi bice byose rero tuzobigarukamo ndikongeragaza kushaka kubafasha kugira ngo mubone neza muronke umuco uhagije.
Donc par exemple dans Daniel 9 27, il est dit il fera et c'est l'antichrist dont on parle ici bien sûr, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, pour 7 ans, pour 7 segments, pour 7 ans et durant la moitié de la semaine. Ah, là on va parler de ces 7 ans qui vont être divisés en deux. On va retrouver cela dans plusieurs textes de la Bible. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, la moitié du segment de 7, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On verra ce que ça veut dire par rapport au temple de Jérusalem. Le dévastateur, regardez bien, celui qui va, le destructeur, c'est-à-dire l'antichrist, c'est-à-dire celui qui va être utilisé par le diable, qui va vouloir se faire utiliser par le diable pour vraiment faire le plus de mal possible dans le temps le plus court sur la terre, commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fonde sur le dévastateur. C'est-à-dire qu'il soit détruit, c'est Jésus qui va venir détruire par le souffle de sa bouche à son deuxième retour l'antichrist.
Oni antikristo azosezerana na benshi isezerano rikomeye ngo kumara iyinga rimwe urumva ni imyaka indwi. Nijyagera hagati urumva ni imyaka 3 n'inusu azokuraho ibimazi n'amashikanwa ibyo tuzobivuga ko ugeseza azoza kwibaba gibizira maze ubuyobe buzosukwa kuri uya geseza gushitsa ku muhero w'isi ubuyobe buzosukwa kuri we ninda zo busuka ko ni Yesu azobaje kugwanya aba bantu bateye Israel.
Donc on voit vraiment il y a plusieurs choses qu'on va retrouver dans l'Apocalypse.
Hari ibintu rero byinshi tubona mu byashuro
Yohana. Dans Matthieu 24.
Muri Matayo 24.
Et dans les prophéties de Daniel.
No mu buvugishwa bwa Daniel.
Qui vont nous donner le canevas, le puzzle qui va nous permettre de comprendre ce qui va se passer dans cette période.
No vugana ibintu rero biduha igicapo rusange bituma tubona neza iyo turiko turaja.
Parce que vraiment étonnamment la Bible nous donne beaucoup de détails sur ces 7 ans.
Kubera ko biratangaje iyi myaka indwi yihamwa Bibiliya irayivuga ko cyane idonido.
Le prophète Daniel quand il a eu ses révélations.
Daniel ariko arahishurirwa ibi bintu.
Il était complètement retourné.
Yari umuntu yikubise hasi
atangaye. De voir tout ce qui allait se passer pour son peuple.
Kubona ibintu bizoba kubwihangagiwe.
C'est-à-dire le peuple d'Israël.
Okubanye Israël.
Parce que tout se concentrera sur tout faire aussi pour détruire Israël.
Kuko ibintu byose bizoba biriko biraba ngo Israël isambuke iveho.
Et là à la fin alors qu'ils seront au bout du bout.
Hanyuma kumpera byanse gose ko bagira bagwe mu
manga. Nous verrons dans les prophéties de Zacharie.
Turabona mu buvugishwa bwa Zakaria.
Ils vont reconnaître Jésus.
Bazotangura kwahamagara Yesu.
Celui qu'ils ont percé.
Umwe bacumita batangura
kumwambaza. Va venir les délivrer avec nous.
Maze aze kubabohora kubatabara
turi kumwe. Les armées qui auront été contre Israël vont être détruites d'un seul coup.
Maze abasirikare bose bagwanije Israël basambuke.
L'Antichrist évidemment. On revient juste en arrière s'il vous plaît juste sur l'autre verset. Merci avant de voir Daniel 12. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on parle d'une semaine d'année, donc la 70e semaine d'année de Daniel, bien sûr, la dernière semaine, les 7 ans, les 7 dernières années.
Urumvika ikomengano ko bavuga ngo kumara iyinga rimwe no kuvuga imyaka indwi.
Mais là encore on voit l'intensification. Dans vraiment la tribulation, vous allez voir, ça démarre déjà comme ça et d'un seul coup, l'intensification du mal, de l'activité satanique contre Dieu et contre le peuple de Dieu.
Nurumva biboneka kandi yuko hazoduga ikibi kizoduga gikomere kizogenda bukebuke kigwirirane cyane.
Mais à des moments très particuliers avec des événements très marquants.
Ariko mu bihe bitandukanye kandi hari ibintu bizobiherekeza biboneka neza.
C'est exactement ce que l'Apocalypse va nous donner.
Nico rero ibyahishura Yohana bigenda biratwereka.
Mais avec beaucoup plus de détails.
Ariko mu buryo burimo byinshi bibitwereka.
Là, Daniel reçoit une prophétie avec des grandes lignes. Les sept ans, quelqu'un qui vient, qui fait une alliance avec plusieurs, c'est-à-dire plusieurs nations, pendant sept ans.
Et puis,
la moitié de ces sept ans, on verra que c'est la grande tribulation.
Les
trois ans et demi. Alors, il va se passer des choses très bizarres à propos du sacrifice, l'offrande, ça va nous parler de Jérusalem. Il va se faire adorer et vouloir régner comme Dieu à Jérusalem. Tiens, c'est un vieux rêve du diable, ça.
Mais
il va y avoir des choses les plus abominables. Et il faut que vous compreniez quand on parle de choses absolument abominables, c'est des choses qui en fait activent le monde satanique au plus haut degré.
Il
faut que vous sachiez qu'il y a des péchés qui activent plus ou moins le monde satanique à plus ou moins haut degré.
Murakwiye kumenya yuko hariho ibintu bituma isi ya Satani ikora ku rugezo rwo hejuru kurusha urusanzwe
rwa. Il y a des choses qui permettent aux démons de pouvoir avoir être beaucoup plus actifs sur la terre.
Hari ibintu bituma amadayimoni akora cyane hano ku isi.
Que d'autres choses que les hommes peuvent faire.
Gusumba ibindi abantu bashobora gukora.
Je vais vous donner des exemples.
Ngira ndabahe ubororero.
L'activité démoniaque.
Ubushobozi n'ibikorwa by'abadayimoni.
Qui est, je dirais, la plus fervente, c'est par exemple quand il y a des sacrifices humains. Ça, c'est le péché le plus grave au niveau des activités démoniaques. Et pour ceux qui m'ont entendu enseigner plusieurs fois sur ce sujet, Dieu a éradiqué de la terre tous les peuples qui ont fait ça. C'est la plus grande abomination qui existe. Qui active le plus les esprits sataniques.
Absolument.
Il y a certaines tribus, par exemple les Incas, si vous regardez en Amérique du Sud. J'ai un ami qui récemment a été au Mexique. Et il a vu dans un musée ou je ne sais plus trop quoi, enfin certains lieux. Où il montrait ces choses-là. C'est-à-dire des dessins, comment il faisait. Les tribus que Dieu a demandé à Israël de détruire en Canaan. Vous vous rappelez que quand Dieu a dit au peuple d'Israël d'aller en
Canaan,
il a dit de détruire les tribus.
Sept
peuplades, sept peuples, petits peuples. Et des fois, on peut se dire, mais pourquoi Dieu quand même dit éradiquer les peuples? Oui. Parce que ces gens-là faisaient des sacrifices. Il y a d'autres choses qui activent les démons. La sorcellerie, les sacrifices d'animaux. Vous savez comme moi que les sacrifices d'animaux sont faits avec du sang des animaux. Et cela active. Ce degré de sorcellerie active les démons. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont possédés, qui se retrouvent avec des oppressions sataniques, des maladies qui sont d'origine satanique, qui deviennent fous aussi, par activité démoniaque, etc. etc. Là, la Bible nous parle vraiment de choses les plus abominables. Il est très difficile jusqu'où le diable va aller.
Au
travers de cet antichrist, nous essaierons de découvrir certaines choses. Mais la Bible nous dit qu'il y aura une fin pour ce monsieur abominable, cet antichrist. Il y aura un moment où il sera détruit. À la fin de la tribulation. On peut voir l'autre texte de Daniel.
Daniel 12,
verset 11. Rappelez-vous, c'est Jésus qui nous ramène aux prophéties du prophète Daniel.
Donc
les deux textes particulièrement qui parlent de cette montée de quelqu'un, d'un leader qui va amener des choses les plus terribles sur cette terre.
Et
bien, ce sont ces deux textes-là particulièrement du prophète Daniel. Il est dit depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, on en reparlera, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura
1290 jours.
Et 1290 jours, ça fait combien? 3 ans et demi. On parlera de ces 1290 jours. Revenons à Matthieu 24. Donc, au verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, ça va être à Jérusalem, dans le temple, temple qui n'existe pas encore aujourd'hui, qui n'a pas été encore reconstruit, que le lecteur fasse attention. Alors, ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur une terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite, rappelez-vous, ils sont dans la tribulation, ils sont au bout de la tribulation, n'arrivent pas en hiver ni le jour du sabbat. Car alors, il est dit, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Verset 22, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ça veut dire que les gens qui seront sauvés dans ce moment de grande tribulation. D'abord, vous avez vu au verset précédent, il est parlé de grande tribulation. Il parle d'une grande tribulation. Et la tribulation va être coupée en deux. L'événement des sept ans s'appelle la tribulation.
Cette
période s'appelle sept ans. De sept ans s'appelle la tribulation. Mais plusieurs textes nous parlent qu'elle est coupée en deux. Et que la partie la plus difficile, les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi, vont être absolument terribles.
C'est
même difficile de s'imaginer comment ça va être. Et la Bible nous donne certains signes. Vous savez que ces signes ne sont pas donnés pour nous. Principalement, c'est donné pour ceux qui seront sauvés dans cette période-là et qui vont vivre ces horreurs. Nous, c'est donné plus pour notre information. Mais nous, on
ne
sera pas là. On ne sera pas sur la terre. Je vous rappelle, Dieu enlève son ambassade. Parce que quand vous voulez déclarer la guerre à un pays, vous enlevez vos ambassades. L'église ne sera pas là pendant la tribulation. Les gens vont se convertir. Vous allez me dire, oui, mais c'est ça l'église. Oui, pas tout à fait. Pas sous la forme dont nous sommes actuellement. Les gens ne pourront pas se réunir comme nous le faisons ce soir. Ils
n'auront
pas la liberté du culte, ils auront la persécution.
Qui,
pendant 3 ans et demi, sera déjà très dur.
Beaucoup
vont mourir pour leur foi.
Mais
pendant la grande tribulation, la grande tribulation, alors là, ça va être difficile. Et justement, c'est pour ça que Jésus dit dans le dernier verset que nous avons lu que si ces jours n'étaient pas abrégés au verset 22, personne ne serait sauvé. C'est à cause des élus que ça va être abrégé, c'est-à-dire aux gens qui vont se convertir pendant ce temps-là. C'est pour ça que donner sa vie à Jésus avant l'enlèvement, c'est bien meilleur. Parce que pendant cette période de tribulation, ça va être horrible. Terrible.
Verset
23. Et si quelqu'un vous dit, alors après, là, dans la fin de cette grande tribulation, ça va dans tous les sens. Il y a de la séduction partout, comme nous l'étudierons. Le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et regardez bien, ils feront quoi? De grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parce qu'il faut savoir que le surnaturel n'est pas forcément de source divine. Ça peut être de Dieu, mais ça peut être aussi du diable.
Et
dans cette période-là, nous étudierons qu'il va y avoir une telle confusion. Le diable va se déchaîner. Les hommes qui seront ses instruments, et particulièrement l'Antichrist, avec le faux prophète, feront des signes parce qu'ils seront dans un tel degré de satanisme. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Ce qui retient l'Antichrist, ce qui retient le mal, c'est l'Église et la prière des saints. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est marqué dans les Thessaloniciens. Nous l'avons vu, ce passage. Donc, en fait, il va y avoir cette séduction satanique absolument incroyable. Et Dieu va faire des miracles aussi au milieu de ça. Les gens vont voir le surnaturel partout, le miraculeux partout. Mais sauf que pour voir le miraculeux du diable, il faudra faire alliance avec lui. Et apparemment, ce que nous verrons dans la grande tribulation, c'est que cette alliance sera irrévocable. Satan va tout faire pour que les gens fassent une alliance spirituelle. La Bible ne nous donne pas, elle nous donne ce chiffre de 666, la marque de la bête, comme nous le verrons.
Mais
il y aura une alliance spirituelle au travers de l'Antichrist. Avec le diable, donc, qui sera irrévocable et dont les gens ne pourront plus se défaire et qui les amènera en enfer dans la damnation éternelle. C'est ce que la Bible va nous montrer dans cette période-là. Donc il y a l'accélération du mal sur la terre, de l'activité satanique qui va se produire. Je vous dis ça parce que vous allez voir, quand on va commencer à entrer dans les différents événements de la tribulation, on sera obligé de se concentrer sur certaines choses, sur certains personnages, certains événements. Et j'essaierai régulièrement de vous rappeler en vous disant, ah vous voyez, là on est dans la première partie de la tribulation. Là on est dans la grande tribulation, la deuxième partie.
Et
là, l'activité satanique est beaucoup plus intense. Donc c'est là où justement il faudra que vous fassiez attention, parce que sinon on s'y perd. Sinon on est là, on étudie les événements, les personnages, on dit oh, on ne comprend pas bien. C'est un enchaînement d'événements. Le diable sait qu'il a peu de temps et il va tout faire pour emmener le plus d'êtres humains avec lui. Et il va utiliser certaines choses. Et Dieu, au milieu de cela, va être bien évidemment obligé d'envoyer ses jugements de plus en plus forts, et ça va être vraiment terrible à certains moments. Devant toutes les abominations qui seront faites, Dieu sera obligé d'accélérer ses jugements sur la terre. de telle façon que les hommes soient obligés de plier. Et ils ne voudront pas plier, ils se rebelleront encore plus. Ils essaieront de tout faire pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Assassiner tous les chrétiens. À chercher les chrétiens. Pour les assassiner. Et tous ceux qui oseront se donner à Christ. Vraiment, ils seront menacés. Et pas de petites menaces. De réelles menaces, et la terre connaîtra une persécution. Et des choses les plus terribles sataniques qui vont se produire. Mais comme nous le verrons à la fin de la tribulation, il y aura un grand réveil parmi Israël. Et juste à la fin de la tribulation, Jésus reviendra en puissance et en gloire. Écrasera l'Antichrist, détruira le faux prophète, ils iront en enfer, et tous ceux qui ne seront pas nés de nouveau à la fin de la tribulation, comme nous le verrons, vont mourir. Dieu les jugera et directement ils seront morts. Ils iront en enfer. Dieu laisse une période, la Bible en parle à la fin du livre de Daniel, de quelques dizaines de jours, où il va nettoyer et tous ceux qui seront encore vivants dans leur corps, nés de nouveau, ils ne seront pas morts de persécution. Il y aura des juifs, il y aura des non-juifs, ils vont entrer dans le millénium. Mais ceux qui régneront sur eux, ce sera nous. Et nous verrons pendant le millénium, il y aura deux types de personnes. Ceux qui seront ressuscités, ceux qui ne seront pas ressuscités. Mais tout le monde sera en tout cas enfant de Dieu. Par contre, il y aura cette période de 1000 ans très particulière où Jésus viendra régner. Il aura récupéré la gestion de sa propriété. Il aura restauré son royaume. Et là, il va régner 1000 ans. Et Israël deviendra la nation la plus puissante du monde. C'est à partir d'Israël que le monde sera géré. La terre connaîtra pour 1000 ans le meilleur des meilleurs des meilleurs rois qu'elle n'aura jamais eu. Mais dans la condition où elle aura été trouvée, c'est-à-dire avec toutes les conséquences de ce que les hommes auront fait, les destructions, etc.
etc.
Et c'est là où à la fin du millénium, nous le verrons, il y aura une certaine rébellion de la part de certains hommes qui seront nés pendant le millénium. Et le Seigneur arrêtera cette rébellion directement. Et c'est là où il recréera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous verrons réellement ce que veut dire ce mot nouveau, c'est renouveler et non pas détruire et tout recréer. Nous
verrons réellement ce que veut dire ce mot ngo amajuru mashasha n'isi nshasha ico bisobanura no gusubiramwo sugusambura
byose. C'est clairement ce que veut dire le texte grec.
Nico mu kigiriki bisobanura.
Et c'est là où Dieu recréera la surface de la terre.
N'Imana izosubiramwo aha kwisi tubaye.
Et il instaurera pour l'éternité son royaume.
Icishiraho kubwibihe bidashira ubwami bwayo.
Donc ça c'est toute l'image globale.
Ico nico gicapo mukwiye gutahana.
Mais nous allons nous concentrer sur la tribulation.
Ariko twebwe tuzogenda turaba cyane tuvuga kubijanye n'imyaka
y'ihama. Sachez que la tribulation c'est tellement décrit dans la Bible,
avec
beaucoup de détails. L'objectif étant de montrer comment à la fin de la tribulation, le Seigneur va écraser les systèmes de ce monde. Parce que rappelez-vous, l'objectif étant de détruire les systèmes de ce monde. Politique, économique et sociaux. Et Dieu, rappelez-vous, c'est la petite pierre de la statue de Daniel qui se détache sans le secours d'aucune main, qui frappe les pieds, les 10 orteils, les 10 nations, et l'image de la statue, la succession des empires, les systèmes actuels de ce monde vont s'écrouler parce que la petite pierre a frappé au pied et qu'elle est devenue une immense montagne qui se répand dans le monde entier. C'est ce que nous étudierons au fur et à mesure.
Et
ce soir, je voulais quand même vous donner une image assez large de la tribulation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.
Passez
une excellente soirée.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.